Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Benoît et Titouan, nous nous retrouvons de nouveau sur le plateau du Larzac après notre émission de la semaine dernière pour que vous puissiez continuer à nous raconter votre passion auprès de vos brebis et de vos poules.
Par rapport à mon métier, est-ce que je me sens paysan? Je suis paysan. Mais je suis pas paysan au sens origine paysanne. Moi, je suis né en région parisienne. Bon, j'ai toujours voulu travailler dans l'agriculture. Je suis allé au lycée agricole en seconde. Je me sens rural, voilà, je me sens rural et dans la ruralité, en campagne, et ben, c'est vrai que je préférais être agriculteur, quoi, être paysan et surtout élever des brebis. Hein, voilà, mon truc, moi, ça a toujours été ça, c'était l'élevage de brebis viande, ça a été mon métier. C'est un premier stage dans les années 86-87, un mec qui m'a dit « Tu connais les brebis ?» J'ai dit « Bah non ». Il me dit « Ça te branche ?» Je dis « Ben oui, pourquoi pas ?» Je dis, mais t'as une semaine pour me convaincre. Et puis voilà, ça a été le coup de foudre et j'ai toujours travaillé dans les brebis.
Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce qui te donne du plaisir aujourd'hui?
C'est quand le soir, je vais faire un tour pour voir les brebis ou pour aller fermer les volailles, que c'est le plein été qui commence à faire nuit, que le ciel est magnifique, c'est le printemps, à 6h du matin, les oiseaux ici à Tire-Larigot, ça chante dans tous les coins, c'est quand tu vois passer l'aigle royal, bon hélas de temps en temps il vient nous bouffer des poules, c'est tout ça quoi, c'est le fait d'être... Je suis né en ville, mais jamais je pense que j'aurais réussi à vivre en ville. Je suis à la campagne, voilà. Je suis et puis je suis indépendant, quoi. Voilà, mon boulot, c'est avec mon associé, on prend les décisions, on choisit de faire comme on veut. Bon, on a plein de contraintes, on dépend de nos fournisseurs, on dépend du marché international des céréales, du soja.
Du climat.
Du climat, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Mais voilà, c'est ça qui fait que j'aime... Et puis, bon, ça va faire sourire certains, sans doute, mais les gens, ils vont en vacances où ? À la campagne, ben, moi j'y habite toute l'année. Voilà, donc, alors c'est sûr que, bah oui, avec le métier de paysan, surtout comme on faisait de la vente directe, etc., devoir être présent sur les marchés toutes les semaines, bah, les vacances, depuis qu'on est ici, ça n'a jamais été papa, maman et les deux enfants qui partaient en vacances. C'était un parent qui prenait les deux enfants qui partaient en vacances pendant que l'autre restait ici, et voilà quoi. Bon, avant de revenir ici, on a eu des vacances, on avait plus de loisirs, de temps libre. Mais en même temps, voilà, ici, si on veut prendre une heure, deux heures, y a personne qui nous dira, non, il faut continuer à aller au turbin, quoi. On fait comme on veut, quand on veut. Bon, il y a des contraintes, mais voilà, c'est ça qui est bien.
Et toi, Titouan, qu'est-ce qui te donne du plaisir dans ce que tu vis aujourd'hui?
En ce moment, pas trop, quand même. C'est un peu compliqué, l'installation, tout ça, mettre en place, c'est pas non plus c'est pas non plus joyeux tous les jours, mais après oui, c'est sûr qu'on a une tranquillité quand même vis-à-vis des autres qui est quand même assez appréciable. Nous en plus on a la chance, on fait de l'agriculture dans un endroit qui est quand même assez préservé des activités humaines, si tu veux. Donc en fait quand t'es au fond des bois à faire ta clôture tout seul peinard, c'est sûr que si t'as envie de t'asseoir un quart d'heure, ce que je fais des fois, je m'assois un quart d'heure et je regarde un chevreuil qui passe, ou alors au printemps c'est vrai que t'écoutes les oiseaux chanter, enfin c'est quand même assez appréciable, quoi. Voilà, c'est quand même assez appréciable d'être dans ce milieu qui est très tranquille, quoi, qui est très apaisant quand même.
Et puis il y a un autre aspect aussi, enfin pour moi en tout cas, c'est que le boulot qu'on fait, on produit des trucs de qualité, je pense. En tout cas, on essaie de mettre tous les moyens et on a quand même beaucoup de retours positifs par rapport à ce qu'on vend aux gens, quoi, voilà. Et c'est quand même pas mal de produire quelque chose qui est bon. et de faire plaisir, quoi. Bon, là, on a arrêté de faire des volailles. Quand je descends au marché le vendredi matin, il y a plein de gens qui me disent « Alors, et les poulets, quand est-ce qu'il y en aura ?» Je dis « Bah, écoutez, là, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. On n'est plus vraiment dans la production de volailles de chair, mais voilà. » Et les gens ne trouvent pas de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils trouvent pas de bons poulets, quoi. Là, on a arrêté pendant 3 mois le marché pour les œufs. On n'est pas encore présent sur le marché pour les œufs, mais voilà, il y a plein de gens qui nous disent « Ah, vos œufs, ils nous manquent, quand est-ce que vous revenez ?» Donc ça, c'est super gratifiant. Faut pas croire, le Larzac, c'est pas le meilleur des mondes, hein. C'est des relations normales, quoi, comme partout. Le plateau du Larzac ou Saint-Cernin-sur-Rance, Saint-Afrique, Saint-Isère ou la Normandie que je connais bien, les relations du monde rural sont les mêmes, quoi. Les gens qui ont le foncier, c'est eux qui ont le pouvoir, et puis voilà, quoi.
C'est pas un monde de bisounours, ça, alors.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non.
Enfin, après, il y en a peut-être qui sont convaincus de ça, mais moi, c'est pas du tout mon opinion, quoi. Ici, on est sur le Larzac, nous, on est sur une ferme SCTL, donc c'est-à-dire bâtiment d'exploitation, maison et terre. Tout appartient à la SCTL, voilà. Donc c'est une, donc on fait partie de gestion collective du foncier et du bâti agricole et non agricole.
Il y a une différence, c'est que par rapport à d'autres régions du Sud Aveyron, par exemple, c'est que il y a une diversité d'origine, oui. qui est plus forte sur le Miavois, quoi. Je veux dire tout autour, parce que c'est lié à la lutte du Larzac.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez transmettre aux auditeurs de Radio Saint-Af?
Prenez soin de notre environnement à nous tous. Voilà. Si on veut continuer à pouvoir exister dans les conditions climatiques qui nous sont prédites, il faut que tout le monde prenne conscience du risque, quoi. Voilà, c'est...
Enfin, mon père, il est en fin de carrière, donc bon, ça va aller, hein. Mais moi, j'attaque, j'ai 30 ans, donc... Enfin, 32 ans, voire peut-être 34 ans du coup de carrière à faire. C'est vrai que je me dis, là, en 10 ans, comment j'ai vu évoluer mon environnement, c'est vrai que je me pose quand même pas mal la question de comment ça va être dans 30 ans, hein. Comment ça va bien pour tourner, quoi. Et je suis quand même venu m'installer. Si tu t'engages dans un métier comme celui-là, c'est quand même un métier un peu passion, quoi. Il faut vraiment aimer faire ça pour... Enfin, je pense pour le faire, hein. Aujourd'hui, les agriculteurs qui aiment pas vraiment ce qu'ils font, je crois que leur vie est très 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 compliquée, quoi, hein. Donc il faut quand même aimer un peu ça. Donc voilà, moi j'aime ça, je viens le faire et tout. Et après, oui, j'espère que ça va se passer le mieux possible. Voilà, déjà moi pour ma carrière agriculteur et après aussi pour les suivants. Hein.
C'est là où on met notre argent de notre consommation qu'on est le plus efficace. On fait gaffe à ce qu'on consomme. Le moins impactant sur l'environnement, ce serait le mieux, quoi, voilà. Et je pense qu'on peut arriver à sauver des trucs, quoi. Arrêtons tous ces voyages en avion, messieurs, dames.
Oh, c'est le monde. Qui c'est qui frappe à la porte?
Tu vas pouvoir voir notre magnifique troupeau.
C'est
de,
le monde.
Voilà, donc là on est dans l'agnelage, puisque donc on produit les agneaux. Nous on veut que les agneaux ils aillent dehors, qu'ils mangent beaucoup d'herbe. Donc on fait un agnelage assez tardif. Là ça a commencé il y a une petite semaine. Donc c'est le tunnel d'occasion qu'on a acheté pour abriter nos brebis. Voilà, donc c'est l'endroit où elles peuvent se mettre à l'abri la nuit. Sur la ferme, il y avait deux vieux bâtiments, une voûte en pierre qui était une ancienne bergerie, mais que nous on a converti en poulailler.
D'accord.
Donc dedans, il y a la possibilité de mettre de l'eau de poule pondeuse. Bon, puis c'est des vieux bâtiments, c'est des voûtes qui ont été bétonnées, parce que bien avant nous, il y a eu des gens qui ont fait du lapin ici. Donc en fait, ils ont bétonné les sols, et c'est, pour les brebis, c'est pas très sain, quoi, une bergerie bétonnée. Puis c'est des vieux bâtiments où l'ambiance est quand même pas extraordinaire quand tu mets 120 brebis dans ce genre de bâtiment-là. Ça devient très vite un peu confiné, quoi. C'est pas vraiment top. Mais là, bon, ben voilà, nous, les brebis, elles sont dehors et voilà, quoi, tout va bien.
Et dans le tunnel, elles n'ont pas trop froid la nuit?
Des brebis, ça n'a pas froid. Ça n'a jamais froid dans la mesure où elles ont à manger. Voilà. C'est un ruminant, et la brebis, dans la panse, c'est une véritable usine à gaz. La température doit être aux alentours de 42 degrés, je crois, si je me souviens bien. Donc, en fait, elle produit sa chaleur elle-même. Dans la mesure où elle a du carburant pour mettre dans l'usine à gaz, les brebis, elles n'ont pas froid. Puis bon, là, elles ont la laine. Voilà. Ce qu'elles craignent le plus, c'est l'humidité, quoi. Si elles étaient vraiment... pas aucune possibilité de se mettre à l'abri de la pluie s'il pleut beaucoup. Bon, hélas, en ce moment, c'est pas vraiment le cas. C'est ça qui les ferait souffrir le plus, quoi.
Et alors, la laine, est-ce que tu en fais quelque chose?
La laine, on la tond, parce que sinon, les animaux, quand il commence à faire chaud, ils souffrent. Mais non, on en fait rien. Moi qui ai été tondeur, la laine, ouais, c'est un produit. Et puis nous, on a une laine, je pense, de bonne qualité, quoi. C'est pas une laine chargée en cochonnerie. Ça devrait être du bon produit, quoi.
Et est-ce qu'il y aurait d'autres usages possibles que le vêtement?
Ah, mais là, la filature Colbert, je sais même pas si c'est pour du vêtement. C'est parce que c'est pas des fils. En tout cas, en brebis lacone, c'est pas une fibre facile à filer pour faire du fil. Hein. Je sais qu'à l'époque, la laine de lacone servait beaucoup à faire des futons. Le truc, c'est de remonter les filières, quoi. C'est un peu compliqué.
L'isolation aussi,
ça. Voilà, ouais, c'est ça, les filières industrielles, ouais.
D'accord.
Ouais.
Joli troupeau en plein air, au soleil, ouais. Magnifiques petits agneaux.
Voilà, bon, hier il a plu, on est super content, mais c'est vrai que là, sur le tout devant, c'est un peu bouillaqueux. Voilà, les petits agneaux sont là, ils sont tranquillous.
Alors, est-ce que tu les parques avec la mère?
Alors, quand ça naît, je vais te faire voir, si tu veux, on va aller, ouais. on peut passer là. En plus, on a un troupeau très cool, il n'y a pas de jus.
Ah, il n'y a pas de jus?
Non.
Pas besoin de jus?
Non, là, non. Non.
Vraiment coupe très cool.
Ouais. Ça va, les filles. Allez. Voilà, donc là, les brebis, les agnels, tranquillou au milieu de leurs copines. Et une fois que les agneaux sont debout, à peu près secs, effectivement, je les enferme pendant 24 heures, des fois plus si la brebis ou si les agneaux sont un peu faiblards. Là, comme celle-là, là-bas, l'agneau, il est né hier matin, et déjà, c'est dehors avec sa mère, et voilà. Donc là, les blanches, ça, c'est les cosnards des garrigues.
D'accord.
Les traits rousses sur la tête, ça, c'est des rouges du Roussillon. Et puis après, celles qui sont un peu internationales, on va dire, au niveau robe et apparence, c'est parce qu'en fait, quand on a monté le troupeau, on a racheté un troupeau à quelqu'un qui est là, c'était décédé. 70 brebis, et ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils mettaient du rouge du Roussillon.
D'accord.
Donc on a racheté ce troupeau-là, et on a quelques brebis qui sont jolies, et voilà.
Et est-ce que vous faites un peu de calinothérapie ou de musicothérapie avec les brebis?
Alors, calinothérapie, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis assez proche de mes brebis. Et il y en a quelques-unes qui rechignent pas à se faire caresser, ouais. Musicothérapie, non. Bon, d'abord, il n'y a pas le jus dans le bâtiment. J'ai pas de pile, j'ai pas de transistor, donc voilà. Non, mais c'est des bêtes, j'aime bien le contact et...
Elles viennent vers toi spontanément?
Ouais, certaines, ouais. Oui, pas toutes, hein, c'est un troupeau, hein, donc il y a des individualités très diverses. Mais oui, il y en a qui viennent. Là, on n'a pas Rashtek, mais parce que c'est un jeune de l'année dernière, mais Rashtek, c'est un intersexe. Voilà. Donc sa mère l'aimait pas au départ. Et puis deux jours, trois jours, quand j'ai voulu lui poser la bouche, je me suis rendu compte que c'était un intersexe. Mais comme on l'élevait au biberon parce que sa mère l'aimait pas, donc il est proche de nous, on l'a gardé, quoi. Voilà. Donc on est super à la mode.
Tu peux nous expliquer ce qu'est un intersexe ?
Et bien, pour les Sud-Aveyronnais, enfin pour les éleveurs de brebis, c'est un big book, quoi. Voilà. Il y a une sorte de vulve avec un micro pénis qui sort.
D'accord.
Et puis lui, il est vraiment particulier parce qu'en plus, il a un testicule, mais le scrotum, il n'est pas développé.
D'accord.
Voilà, donc il a un testicule. Il a un comportement un peu de bélier, mais voilà, je suis tranquille, ça ira jamais aucune brebis, celui-là.
D'accord. Non, ouais, et il belle comment ?
Ah, ben il belle comme une brebis normale, quoi. Voilà, hein, c'est pas. Bon, là, en plus, il est jeune, donc. Voilà. Ouais, ouais. On est super, super en fait en avance au niveau sociétal.
Ah ouais. Ça existe aussi chez l'homme. Hein.
Exactement, je sais. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà. Mais généralement dans les élevages, effectivement, les intersexes, ils survivent pas longtemps parce qu'ils servent à rien. Quoi.
Ouais.
Sauf que nous, on l'a gardé parce que comme il est, comme on dit, à maniaguer, pour faire venir le troupeau, quand on appelle Rachetek, Rachetek il vient nous voir. Il nous saute pas dans les bras, hein, mais il vient nous voir et donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça va être un menon, quoi. Voilà, il va nous servir à mener le troupeau. Comme la vieille, là, on a une vieille ici, là-bas, c'est elle qui est couchée là-bas. C'est pareil, elle est super sympa, mais normalement, dans un élevage normal, ça devrait faire 4 ou 5 ans et elle serait partie à l'abattoir. Bon, ben nous, on l'a gardée parce que elle mène le troupeau, quoi. Voilà, quand on veut bouger tout le monde, on la fait venir et tout le monde suit.
Et les agneaux, tu les vends à quel poids ?
Ah bah les agneaux, on va les vendre, ils feront 35-40 kilos vifs. Ça fait des agneaux qui font des carcasses de entre 15 et 18 kilos, voilà. Donc on en vend, comme c'est le début, on en a vendu un peu en direct l'année dernière. C'est-à-dire qu'on fait faire la découpe à la société Landau-Closer Viande, là, qui est à Entrenas. À côté de Marvejol et puis sinon après on est adhérent aussi au groupement de producteurs Celia, voilà, et donc on a vendu des agneaux aussi chez eux, et donc eux ils font l'abattage pareil à Marvejol et c'est distribué dans les boucheries, etc., en carcasse d'agneau bio, quoi, voilà.
Et on te prend par exemple le kilo d'agneau à combien là-bas?
Alors les derniers agneaux qu'on a fait partir, ils nous ont été payés, ils faisaient 17 kilos de carcasse et ils nous ont été payés 130 euros pièce. Voilà.
Donc, ça te paraît être un bon prix, une reconnaissance du travail?
Ouais, là c'est des prix qui sont intéressants, mais en France on produit même plus la moitié des agneaux qu'on consomme. Donc,
pourquoi? Tu peux nous expliquer ça?
Ben parce que l'élevage ovin viande a été mis à rude épreuve pendant de nombreuses années par rapport à la concurrence des agneaux irlandais, des agneaux anglais qui étaient importés en France. En Angleterre, eux, ils consommaient énormément en fait, d'agneaux néo-zélandais. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé les accords du GATT qui datent des années 90 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il y avait importation dans l'Union européenne d'agneaux néo-zélandais, et au sein de l'Union européenne, les Anglais et les Irlandais nous faisaient manger leurs agneaux en France. Il y avait des camions entiers qui arrivaient, par exemple, à Saint-Afrique, à l'abattoir. Moi, j'ai vu des camions d'agneaux irlandais et anglais qui arrivaient, quoi, voilà.
Et ça continue ?
Je sais pas où ça en est. Là, je suis un peu déconnecté de tout ça, mais je pense que oui. Peut-être qu'on n'importe que des carcasses maintenant. Parce qu'importer des animaux vivants, c'est quand même c'est un peu délirant, quoi. Mais j'imagine qu'on importe toujours de la viande, de toute façon.
Et vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus, dans la mesure où la PAC vous fait taire, entre guillemets ?
Non, la PAC, elle ne nous fait pas taire. La PAC, elle permet justement de compenser cette concurrence avec des systèmes de production qui ne sont pas si tant extensifs que ça, les Anglais, etc. Mais ils n'ont pas du tout la même structure d'exploitation agricole que nous. Hein. Des gens comme nous, fermiers sur une petite exploitation, il n'y en a pas beaucoup en Angleterre. Ils ont des gros propriétaires terriens avec des gens qui sont salariés, qui travaillent dans des grosses exploitations. Je rappelle quand même que la reine d'Angleterre recevait le plus d'argent de la PAC à l'époque où l'Angleterre était encore... la Grande-Bretagne, pardon. Était encore dans l'Union Européenne, quoi.
God save the Queen.
God save the Queen, ouais, la pauvre. On ne produit pas suffisamment, on n'a pas une structure suffisante. Entre les volailles, les poules et les brebis, on n'avait pas assez, donc on a acheté un peu de grains, mais c'est de l'orge bio qu'on a acheté, et voilà, donc elles ont du grain et elles ont aussi un aliment bio, puisqu'on a un fournisseur d'aliments qui fait que de l'aliment bio, avec qui on travaille depuis 20 ans, donc on achète aussi un peu d'aliments pour amener la matière azotée, voilà.
Est-ce que vous n'avez pas assez de surface pour pouvoir produire suffisamment de
céréales ? La matière azotée, non, ouais, les céréales, non, c'est compliqué parce qu'il faut choisir entre la production de fourrage et la production de céréales. Donc voilà. Et puis la consommation des volailles était quand même vachement plus importante. Là maintenant, ça va sans doute s'équilibrer, on verra ce que ça va donner. Mais après, en ayant les troupeaux de brebis, il faut produire du foin. Hein. Là, nous, cette année, on a acheté du fourrage. Hein. On a acheté une quinzaine de tonnes de foin à l'extérieur. Hein.
Et est-ce que vous les traitez préventivement contre certaines maladies ? Chlamydia
Chlamydiose, non. On se pose la question, peut-être qu'il nous faudra refaire une année la vaccination sur les agnelles. On va peut-être le refaire. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. On a un troupeau très jeune, donc pour l'instant, ça ne craint pas. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des coprologies pour regarder s'il y a des parasites du tube digestif. Voilà. Donc, cette année, on les a traités une fois, là. Mais parce que surtout, on avait des oestres. Hein. Les oestres, c'est une mouche qui pond une larve au niveau du nez des brebis, surtout quand il fait très chaud. Et donc, après, ça fait une sorte de pupe de mouche. Qui se développe dans les naseaux et ça fait moucher les brebis et à la fin ça peut partir, ça fait des cancers du sinus. Voilà. Donc là effectivement cette année on a fait le traitement contre les oestres qui en même temps fait aussi pour d'autres parasites internes. Donc voilà, les brebis ont été traitées une fois. Voilà. Et on a déparasité nos jeunes agnelles aussi une fois parce qu'il y avait du ténia. Et ça, le ténia, on le voit dans les crottes. Et on a attendu le dernier moment pour le faire et on les a traités. Sinon, après, non, il n'y a aucun autre traitement. Bon, si une brebis a un problème de mammite ou quoi que ce soit, je serai amené à faire un traitement antibiotique. Je ne vais pas laisser mourir la brebis. Mais sinon, après, j'utilise beaucoup d'aromathérapie, des huiles essentielles diverses et variées pour tout ce qui est désinfection. Petites plaies, etc. Mais bon, après, la chimie, ça peut nous arriver de l'utiliser, quoi. Antibiotiques et anti-inflammatoires si on a un problème de mammite, par exemple.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il
novembre, du jour au lendemain il nous a manqué 3 brebis, on savait pas trop qu'il y avait le loup et je pense que ces 3 brebis là c'est le loup qui les a tapés. Après ça a été début décembre, toutes 10 brebis qui ont mortes ou euthanasiées, on en a fait euthanasier 3 parce qu'elles étaient blessées de manière très trop importante pour les soigner. Et donc il y en avait 7 qui ont été tués. Les brebis étaient un peu loin de chez nous, donc on les a ramenés juste à côté de la maison, une vingtaine de jours après, à 2 pas de la maison. Là on en a eu 8 qui ont été touchés, 6 morts sur l'attaque et 2 que j'ai dû euthanasier. Il est passé l'année dernière, cette année à l'automne, on serrait les fesses et on touchait du bois. Bon, cette année il n'y a pas eu de dispersion à première vue, il n'y a pas eu d'attaque, en tout cas sur cette partie ici du Larzac. Sur le sud du plateau à première vue il y a des incidents, hélas, mais voilà. On va essayer de vivre avec. Alors on a mis en place un chien de protection, Monsieur Toby, là, un matin espagnol. Bon, il n'est pas avec le troupeau de brebis ici, il est avec le troupeau des agnelles. Mais voilà, Toby, il fait 80 kg, un matin espagnol, qui j'espère en cas d'attaque nous protégera, on verra bien. Bon, mais on est habitué à la prédation de la faune sauvage. Hein. Avec les volailles de chair, les autours des palombes et les éperviers, c'était nos principaux ennemis. Hein. Donc, ça pouvait monter jusqu'à 250 volailles mangées par an sur les 5000 maximum qu'on faisait. Donc, ça nous arrivait de... On sait ce que c'est que la prédation par la faune sauvage. Dans le cas du loup, on est indemnisé un peu, mais bon, c'est pas ça qui fait, ça fait pas tout, quoi. On est aidé pour faire des clôtures, on est aidé pour l'achat du chien, mais c'est pas la finalité en soi, quoi. Voilà, il faut qu'on puisse se défendre, hein, c'est tout. Moi, je suis pas le loup. On n'arrivera pas à l'éradiquer. Il est là, il est là. Il est venu tout seul. Mais il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse se défendre. Hein. Si le loup il vient attaquer, moi, j'ai, comme on a eu subi deux attaques, j'ai l'autorisation de tir de défense. Donc, c'est-à-dire, si je me trouve nez à nez avec le loup, que par hasard j'ai le fusil avec moi, j'ai le droit de tirer au moins en l'air pour lui faire peur. Voilà, il faut qu'on puisse avoir le droit, il faut qu'on puisse se défendre. Je dis pas qu'il faut faire des éradications et tuer tous les loups, hein, c'est pas ça mon propos, hein, mais il faut qu'on puisse se défendre, voilà, c'est tout. Déjà, et d'une, il y a l'effet d'excitation, c'est des proies faciles, quoi. Donc, le loup, en fait, il chope souvent à la gorge, il serre un bon coup, et la brebis, elle tombe pas, quoi, et le loup, lui, il le sait pas, donc... Donc, ce qui fait que tant que le troupeau est accessible, qu'il peut continuer à courir après, qu'il a des brebis qui sont à côté de lui, et il va les choper, il va les claver, quoi. L'attaque du début décembre l'année dernière, il y avait un endroit, il y avait deux brebis qui étaient à 2 mètres l'une de l'autre, et il y avait un autre endroit, il y avait trois brebis, elles étaient à 5-6 mètres l'une de l'autre, quoi. Donc ça veut dire que les brebis, elles ne savaient pas trop, c'était la nuit, lui il est venu, il a tapé, il a tué des brebis, puis celles qui sont blessées, elles étaient blessées à la gorge, puis après il a tenté sans doute de les rattraper parce qu'elles étaient des fois blessées entre les deux gigots en bas, il a dû essayer de les choper, bon puis elles ont réussi à se sauver, et une fois que le troupeau est parti, le loup il fait demi-tour, enfin là je pense que le loup il était tout seul, il fait demi-tour, il prélève sur une ou deux carcasses, il mange l'épaule, il fait ce qu'on appelle, il tire la peau comme en chaussette là, il prélève ses 2, 3, 4, 5 kilos de viande peut-être, et puis après voilà, les autres c'est trop tard, quoi. Et le loup en fait il embarque pas une carcasse, quoi, hein. il la tue et il consomme sur place et puis c'est il s'en va, quoi, voilà, hein. De fuite, hein. Donc elles ont un instinct grégaire, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à rester en troupeau, mais surtout c'est un animal de fuite, c'est-à-dire que si elle craint quelque chose, et elle va chercher à s'en aller, donc c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Elles s'en vont, quoi. C'est le nombre qui fait en fait la protection, quoi. Je veux dire, c'est comme un banc de harengs, etc. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, quoi. Voilà, c'est le nombre qui fait la protection. Comme les étourneaux, les rapaces, ils ne savent pas quel étourneau ils doivent taper parce qu'ils voient ce sort de gros nuage et en fait, ils n'arrivent pas à fixer un objectif. Donc, c'est le nombre qui fait... voilà. Et là, les brebis, elles réagissent pareil. Hein. C'est le troupeau qui fait la protection. Mais hélas, il y en a quelques-unes qui se font attraper.
Et j'ai vu que vous aviez des chevaux aussi. Qu'est-ce qu'ils font, les chevaux, ici?
Les chevaux, on a surtout des ânes. Ils nous permettent d'utiliser des parcours qui sont très très peu valorisables par les brebis. Ils nous permettent de valoriser aussi le refus de foin là, qu'on donne l'hiver. Voilà. Et ça nous permet de... On peut les déclarer aussi à la PAC. Et donc ça nous permet de déclencher des primes sur des surfaces.
Voilà. D'accord.
En même temps, ils ont un effet mécanique et d'ouverture du milieu. Et en même temps, ils nous permettent de déclarer des hectares pour toucher des primes. Mais c'est des animaux qui économiquement sont productifs, quoi, voilà.
Est-ce que vous en servez pour de l'attelage ou...
Non, pas encore. Ça c'est le projet de Titouan, avec les ânes, de produire soit des ânes pour des gens qui font des balades. De l'attelage peut-être, je sais pas. C'est plus son plan. Moi, les équins, c'est pas trop mon... Je les trouve sympas, hein, mais c'est pas trop mon truc.
Merci Benoît et Titouan pour nos échanges particulièrement intéressants dans votre magnifique ferme du Sceau sur le Causse du Larzac. Chers amis auditeurs, la semaine prochaine, nous nous rendons sur la commune de Saint-Jean-du-Bruel, à l'est du département, dans la vallée de la Dourbie, pour rejoindre sur le hameau de Saint-Glaise, Piou, avec ses brebis qui adorent manger dans les bois. Pour nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire sur paroleruralaupluriel@gmail.com.